www.radio-g.fr.
Et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission en ce mardi 3 février 2026. Désolé aux Marseillais avec qui on met quand même la musique pour les soutenir. Hein. On en reviendra, voilà, ceux qui savent savent. On y reviendra dans la page de football européen. Pour m'accompagner ce soir, à ma gauche, j'ai Robin. Salut Robin.
Salut Faustin, salut à tous. Comme tu l'as dit, on a parlé de ce drame qui est intervenu pour les Marseillais. Puis aussi le SCO qui retrouve la victoire, donc ça fait extrêmement plaisir.
Et tout à fait, on en parlera dans les actualités locales avec nous ce soir. On a Paulin aussi, salut Paulin.
Salut Faustin, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai peut-être été un peu trop gentil avec mes amis marseillais la semaine dernière, je les ai vus trop beaux, j'avoue.
Pas le seul.
Erreur de ma part là-dessus, erreur de casting, mais bon, en tout cas on espère qu'ils pourront se relever ce soir face à Rennes.
Tout à fait. Et enfin, celui qui a dû pleurer mercredi soir, c'est Paul qui est avec nous. Salut Paul.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Ouais, comme tu le dis, ça n'a pas été une soirée très facile, mais bon, on espère que ce soir, ça va le faire.
Voilà, pour la Coupe de France, donc on en parlera également. Au programme, les actualités locales, comme vous en avez l'habitude, le football, on le disait avec la page européenne et la Coupe de France, on enchaînera sur le tennis, on a eu le droit à un grand final dans l'Open d'Australie, on y passera un peu de temps. On parlera NBA avec les sélections du All-Star Game et aussi du handball, pardon, j'ai failli l'oublier, voilà, avec un mondial qui s'est pas très bien passé pour nos Bleus. On va démarrer donc sans plus tarder avec l'UFAB qui a subi une très lourde défaite 46-74 contre les Flammes Carlo de Charleville-Mézières avec seulement 15 points inscrits en première mi-temps. Il y a clairement une panne offensive et les solutions n'ont pas été trouvées à temps. Cette défaite va à coup sûr peser sur les morales des Angevines. Ça les fait également descendre à la dernière place de la Boulangère Wonder League. L'accession au play-off va être compliquée. Chaque victoire va être importante. Désormais, du côté de l'EAB, 7e défaite consécutive aussi pour les joueurs de l'Étoile. Cette fois-ci, 84-67 contre Tarbes. Pourtant, bien parti pour accéder à la poule haute, l'EAB rame dans cette deuxième partie de saison et tombe à la 10e place. Avec seulement 4 matchs à jouer, il va falloir un sans-faute pour espérer une place en poule haute. Et ça commence dès ce soir contre Chartres. Du côté de Cholet, grosse victoire contre Bourg-en-Bresse, une rencontre très offensive avec beaucoup de points, 102 à 96 score final. Les Choletais passent à la 8e place avec un bilan de 10 victoires et 8 défaites. Prochain match dimanche contre Limoges. Du côté du score rugby, il n'y a pas eu de match. Du côté des Ducs maintenant, deux nouvelles victoires pour eux. La première contre Cergy, 5 buts à 3. Et la deuxième contre Grenoble sur penalty. Se retrouve ainsi un point derrière Grenoble au classement avec deux matchs de retard et à égalité avec Rouen. Maintenant le SCO football qui va nous prendre aussi un peu plus de temps. Victoire sur la plus petite des marges contre Metz, 1 but à 0 sur un nouveau but de Mouton. Un carton rouge messin dès la 9e minute a permis aux Angevins de dominer la rencontre de A à Z. On aurait quand même pu espérer plus de buts, mais le gardien Grenat a été très bon. Angers repart tout de même avec les 3 points et assure presque son maintien. On a également pu voir les premières minutes de Koyalipu, fraîchement arrivé de Levante où il était prêté par Lens. Branko van den Boomen a lui été titulaire et fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Angevin, les gars, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette prestation angevine?
Personnellement un petit peu mitigé, moi, du fait que certes il y a la victoire, mais tu joues face à la lanterne rouge du championnat quand même, ouais. Et comme tu l'as dit, t'arrives seulement, donc les Angevins étaient en supériorité numérique à partir de la 9e minute, et t'arrives seulement à gagner ce match 1-0. Moi, voilà, il y a la victoire, il faut bien évidemment retirer, garder le positif, mais moi j'en attendais plus quand j'ai vu j'attendais une victoire par peut-être une victoire sûre, même à 11 contre 11 et peut-être avec plus de buts. Mais oui, là j'ai été un peu frustré, le SCO qui a eu du mal vraiment, qui s'est même fait peur, parce qu'on l'a vu à la fin de match, ils ont failli encaisser un contre son camp, etc. Il y a eu quelques occasions Messine qui auraient pu coûter ces 3 points au SCO, et oui, je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans ce match de la part des Angevins. Donc je suis un petit peu mitigé, je me dis que si c'est la même chose à 11 contre 11 face à des plus grandes équipes, ça risque de pas être la même histoire, donc attention aux Angevins. Voilà, on va retenir évidemment les 3 points, et puis comme tu l'as dit, première titularisation de Van den Boomen, que j'ai beaucoup aimé au milieu de terrain, qui a été très très bon, qui va évidemment beaucoup aider. Donc on en parlera bien évidemment, mais au départ de Dimad Abdelli. Donc voilà, satisfait, mais on peut tirer quand même un petit signal d'alarme. Attention aux Angevins de pas se faire coûter trop souvent les 3 points, à pas assez emballer les matchs et pas assez les terminer comme il se devrait.
Ton côté, Paulin, emballé ou pas par cette rencontre?
Non, moi je suis complètement d'accord, je rejoins Robin sur ce qu'il a dit. Ça a manqué de production offensive, surtout par rapport à la supériorité qui a duré clairement tout le match. Je pense que ils ont pas assez osé. Il y a vraiment ce manque de provocation, et c'est vrai qu'un match comme ça contre une équipe messine qui est clairement pas en grande forme, quand tu joues à 11 contre 10, normalement tu dois gagner avec une plus grande marge. Bon, ensuite, moi je suis d'accord, faut revenir sur la performance de Van den Boomen, hein. Il fait plus d'une vingtaine de passes dans le dernier tiers. Enfin, on sent vraiment qu'il va apporter, et que là on a vraiment trouvé une recrue. Je pense qu'il va faire énormément de bien à l'effectif. Derrière, moi j'étais plus branché sur la fin du match, donc à partir de la 65e, j'ai pu voir la rentrée de Koyalipu. Il en a une, il a une occasion, il peut décaler Raoul Izoa, il la décale pas, il décide de se la tenter. Pourquoi pas? Et j'ai envie de dire, t'as envie de te mettre en confiance, t'as envie de montrer à le club que tu viens de rejoindre que tu peux marquer un but. Pourquoi pas, voilà, je pense qu'il va pouvoir apporter. De toute façon, Dujeu l'a dit aussi en conférence, hein, il attend beaucoup de lui, et il va essayer de donner aussi à ce joueur-là pour qu'il puisse finir la saison comme il se doit, et après repartir de nouveau sur les chapeaux de roue. Mais non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Robin, hein, c'est vrai qu'on aurait pu vouloir une victoire un peu plus importante en termes de but. Derrière, les 3 points sont là, c'est le plus important. Maintenant, on sait qu'on a encore du travail, et Dujeu, sans aucun doute, il nous le fera, ce travail-là.
Ouais, ton côté, Paul, pareil, assez mitigé sur cette rencontre.
Je reviens sur ce qu'on dit, les gars, c'est un match où tu dois le finir plus tôt, tu dois le terminer plus tôt, parce que tu es à 10 contre 11 pendant 80 minutes quand même, c'est pas rien. Mais bon, moi ce que j'ai envie de retenir, c'est les 3 points, le fait qu'on prend quand même 12 points d'avance sur Nantes, qui est le barragiste, merci. Et du coup, c'est quand même important, parce que comme tu l'as dit, on n'assure pas encore, mais on se met en avant, on se met bien pour le maintien, parce que quand même c'est quand même l'objectif de la saison, puisque c'est pas finir dans le milieu de tableau, ce serait pas mal, ce serait vraiment super, mais au moins d'être maintenant en Ligue 1, c'est l'objectif principal, et pour l'instant on s'en dirige vers cet objectif du meilleur que l'on peut.
Tout à fait, ouais, parce que du coup le SCO est 11e avec je vais trouver ça, avec 26 points au bout de 20 journées, tandis que Nantes est donc 16e avec 14 points, les premiers barragistes. C'est un maintien qui se situerait, il me semble que l'année dernière c'était autour des 32 points, le maintien, donc on s'y approche grandement, et l'écart se creuse grandement aussi avec Nantes au CRMS, qui sont au contraire dans de très mauvaises dynamiques. On y reviendra peut-être avec les résultats de Ligue 1 juste après, mais le SCO, je sais pas ce que vous en pensez les gars, pour moi est dans les têtes quasiment maintenu.
Bah oui, je pense que, enfin, c'est délicat parce que pour moi on a quand même fait le plus dur en première partie de saison. Derrière on sait qu'il y a des matchs qu'on va pouvoir aller chercher, il y a des matchs qu'on va pouvoir gagner, on va pouvoir aller chercher des points même à l'extérieur contre des gros, on l'a montré justement, on a cherché un point à Marseille. Donc oui, c'est vrai qu'on voit mal le SCO nous faire une deuxième partie de saison sans prendre le moindre point ou en faisant que des défaites, que des nuls, forcément qu'ils vont aller nous chercher des victoires, peut-être des matchs nuls, il y aura des défaites évidemment, mais on se situe quand même globalement bien pour se maintenir. Je pense que Metz, c'est clairement fichu pour eux. Auxerre, ça semble compliqué. Pourtant, Auxerre, dans l'effectif, il y a vraiment des joueurs de talent. Ils auraient pu le faire face à Toulouse ce week-end, mais ils n'ont pas réussi à gagner. Donc, voilà, il y a ce genre d'équipe qui peut faire peur. Nantes, j'y crois pas. Et je pense que c'est leur saison et ils vont redescendre. Donc, moi, je pense que voilà, le SCO est en bonne position. Attention à pas se faire peur en enchaînant, par exemple, des défaites qui pourraient faire mal à la tête. Il faut réussir à aller garder des résultats, chercher des nuls à l'extérieur, prendre les points à domicile et ça ira.
Ça, dans les concurrents directs affrontés par le SCO, on a donc Nantes qui reste à jouer, Le Havre, Auxerre, au milieu du tableau on a Brest, on a Nice aussi à jouer encore, donc voilà, un calendrier relativement abordable pour cette fin de saison pour assurer son maintien. On va partir sur l'autre actualité du SCO qui nous a aussi porté tout cet hiver, c'est enfin, j'ai envie de dire, les départs de Sidiki Chérif pour 25 millions d'euros, bonus compris, et 10% sur une potentielle revente du côté du Fenerbahçe. On a aussi appris le départ donc d'Imad Abdelli, on en parlait juste avant, pour environ 3 millions d'euros, bonus compris, là aussi du côté de Marseille. Et l'arrivée de Koyalipu a également causé le départ de Jim Alevina vers Kasımpaşa en Turquie. Voilà des transferts. On était assez dubitatif la semaine dernière sur s'ils allaient avoir lieu ou pas. L'offre de Fenerbahçe est arrivée entre-temps, a été bouclée assez rapidement, contrairement à ce qu'on a pu voir avec Crystal Palace ou le Paris FC. Pour vous, est-ce que c'est ce que vous attendez ? Est-ce que c'est des bonnes choses pour le SCO ? Ou est-ce que c'est des joueurs qu'on aurait dû préserver jusqu'à la fin de la saison ?
Bah, Abdelli, j'ai envie de te dire qu'on aurait pu préserver pour qu'il parte à la fin de saison, à la fin de son contrat. C'est ce qu'on voulait tous, je pense, pour avoir une belle fin avec Abdelli, parce que quand même, c'est un joueur qui a apporté beaucoup au club ces dernières années. Donc, qu'il parte pour 3 millions, bah, ça rapporte quand même de l'argent au club, mais bon, je pense que tout le monde aurait préféré qu'il fasse une fin de saison, vu la forme qu'il avait et vu ce qu'il apportait à l'équipe. Et pour Sidiki, c'est pareil. Enfin, même si bon, il part pour un gros chèque, 25 millions, c'est quand même énorme pour une demi-saison. Donc, c'est quand même pas mal, mais ça aurait été bien de le garder pour au moins, avoir cet objectif maintien qui va se faire, on l'espère, et qui aurait pu encore mieux se faire du coup avec un joueur comme ça. Mais au moins, 25 millions, c'est un beau chèque et ça permet au SCO d'avoir moins de problèmes avec l'argent en ce moment, ce qui avait coûté quand même le non prêt de comment il s'appelait, la Bolascalerie.
Tout à fait. Ouais.
Du coup, enfin, ça peut renflouer les caisses, c'est quand même pas mal.
Ça double quasiment le budget du SCO tout simplement pour la saison prochaine, sachant que pour l'instant il est en prêt jusqu'à la fin de la saison, donc Sidiki Chérif, et il sera payé avec une option d'achat obligatoire, voilà, dans ce prêt. Donc l'argent n'est pas encore arrivé sur les comptes du SCO, mais ça ne serait tardé. De ton côté, Robin, qu'est-ce que t'en dis de ces transferts?
Je suis plutôt d'accord avec Paul, parce que pour moi c'est bien pour Chérif du côté du club, forcément. 25 millions, on va pas cracher dessus, après un joueur qui n'a pas, on va pas mentir, qui a un gros potentiel, mais qui n'a pas montré énormément de choses. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un choix, je vais pas dire un choix étonnant, parce que Sidiki Chérif avait quand même l'opportunité d'aller en première ligue, qui est certainement le plus grand championnat à l'heure actuelle. Et voilà, il décide de se diriger vers la Turquie. Bon, après on sait que c'est vraiment un championnat où il y a de plus en plus de niveaux. Ces dernières années, mais voilà, j'étais plutôt étonné. Moi je pensais que le SCO allait se mettre d'accord au final avec Crystal Palace, etc. Il y a Fenerbahçe qui arrive entre temps et qui a fait, et pour Abdelli, on en avait déjà parlé la semaine dernière. Voilà, c'est toujours niveau sportif dommage pour le SCO de le lâcher pour seulement 3 millions. Bon, on sait que 3 millions, ça peut compter pour le SCO, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Après, est-ce que c'est pas un mal pour un bien aussi? Est-ce que il n'aurait pas fait une seconde partie de saison différente, comme il n'était plus très bien dans la tête, il était déjà parti par exemple à Marseille.
C'est ça.
C'était le risque aussi de le garder et de penser qu'il allait pas être au top psychologiquement. Donc voilà, ça a arrangé toutes les parties apparemment, donc c'est le principal, et puis le score enfloue les caisses comme on l'a dit, donc c'est tant mieux.
Voilà, tout à fait. Et ton côté, Paulin, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ce à quoi tu t'attendais comme transfert, est-ce que tu t'attendais à plus peut-être pour Sidiki Chaleff?
Si non, bah, moi je pense que justement moi je pensais qu'on avait raté le coche pour Sidiki au début. Alors en tout cas financièrement pour le SCO, cette offre du Fenerbahçe elle tombe à pic. Moi je trouve que 25 millions pour Sidiki Chaleff, c'est vraiment très bien, hein, parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, on sait pas, peut-être que là il s'était blessé, donc peut-être que la demi-saison allait mal se passer pour lui, peut-être que sa cote aurait chuté, à l'inverse peut-être que ça aurait explosé. Ça c'est des on dit, enfin on peut pas savoir. Il n'empêche que 25 millions, je pense que c'est très bien vendu. Derrière pour lui sur le plan sportif, c'est vrai que c'est étonnant. Après le Fenerbahçe joue la Coupe d'Europe, le Fenerbahçe va rivaliser pour gagner la Ligue turque. Donc très vite ça peut s'enchaîner, et en plus du coup le Fenerbahçe, ça reste un club qui est un peu mondialement suivi. En tout cas, on jette souvent un œil sur le Fenerbahçe, donc on peut jeter un œil sur Sidiki Chaleff et ses futures performances, ce qui fait qu'il pourra aussi attirer la convoitise d'autres clubs, et d'où aussi le fait de mettre un pourcentage à la revente, ce qui est toujours très intéressant, et c'est pour ça que le SCO se débrouille assez bien à chaque fois pour faire ça. Donc ça c'est intéressant à voir ce que ça donne pour lui. En tout cas on lui souhaite le meilleur en Super League. Et derrière pour Abdelli, bah moi je pense que quand même prendre 3 millions c'est moins que rien en fait, et tant mieux d'avoir pris ces 3 millions là. On aurait préféré le garder, oui. Maintenant, l'arrivée de Van den Boomen, en tout cas, moi, me rassure sur la perte à ce niveau-là et sur un tel joueur, parce que je pense que Branko Van den Boomen, dans le profil, en tout cas, comment Abdelli s'était un peu réinventé plus bas sur le terrain, et ben justement, ça correspond un peu à Van den Boomen, qui peut, lui, un peu jouer au milieu de terrain, un peu partout. Donc, moi, je trouve que c'est avec l'arrivée de Van den Boomen, j'ai tendance à relativiser ce départ. Après, je sais pas si jamais il était pas parti, je pense que peut-être que ça l'aurait impacté, mais oui. À mon avis, vu son caractère, peut-être qu'il se serait dit, je vais quand même tout donner pour le SCO, parce qu'ils m'ont donné aussi, je leur donne en retour, et de toute façon, il sait qu'il allait partir à Marseille dans tous les cas. Je pense qu'il nous aurait quand même apporté. On le perd maintenant, voilà. Heureusement qu'il y a Van den Boomen, j'aurais peut-être pas forcément eu le même discours si on l'avait pas remplacé.
Quoi. Ouais, c'est clair. Et puis ça, Abdelli aurait clairement été soutenu par les supporters angevins s'il était resté, parce que Abdelli qui part, c'est quand même une page qui se tourne du côté de l'histoire de Angesco, pardon. Et pour ça, on a peut-être pris chacun trois moments, ou au moins quelques-uns qui nous ont un peu marqué du côté de Imad Abdelli. Est-ce que quelqu'un veut commencer?
Vas-y. Moi, il y a trois moments. Bah, du coup, premier moment, c'est peut-être le match contre Nantes cette saison. Il fait un match vraiment, genre, excellent. Genre, j'ai envie de te dire, c'est quasiment un 10 sur 10. Son match, tellement il est propre, techniquement, dans les actions qu'il propose. Il met un but. Il est, sur le troisième but, il fait quand même le poteau qui fait que ça revient dans l'action et qu'après ça marque. Du coup, quand même, il est décisif un peu. Je mets des parenthèses sur ça. Mais il fait un énorme match. C'est exceptionnel. Après, en deuxième moment, je dirais quand même la remontée en Ligue 1, quand même, parce que même si c'est collectif, il a quand même été l'un des acteurs majeurs et il a fait beaucoup de bien à cette équipe. Et en vrai, en top 1, je dirais peut-être son match contre Monaco l'année dernière, où il a vraiment aussi été très, très fort, excellent, et techniquement, il était vraiment partout.
Ton côté, Paulin?
Ah, moi j'ai les deux mêmes que Paul en premier, où forcément, enfin son match face à Nantes, en tout cas sur le souvenir un peu plus récent de ce qu'on peut avoir d'Abdelli au SCO, c'est vrai qu'il a vraiment fait un match qui était exceptionnel, et déjà le match du SCO avait été incroyable, mais lui particulièrement, c'est vrai qu'il avait un peu épaté. D'ailleurs on a tout de suite vu la différence, dans le sens où sur les réseaux on a tous vu tourner des highlights de son match d'Abdelli qu'on voyait pas forcément sur d'autres matchs d'avant, parce que il avait vraiment choqué sur une vraie perf d'un très bon milieu de Ligue 1. Derrière, je suis d'accord sur le match de la montée. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu le symbole de ce SCO qui remonte, porté par un Imad Abdelli capitaine qui nous a fait un bien énorme avant. Et après, j'ai le souvenir aussi, je crois que c'était contre Grenoble, mais je sais plus, ou contre le Paris FC en Ligue 2, et je me souviens rentrer dans le stade un peu en retard, et je rentre je monte les escaliers et il envoie une frappe hors surface pleine lucarne, genre incroyable. C'était il y a 2 ans du coup. Je crois que c'était contre le PFC et non, c'était vraiment. Enfin, c'est un souvenir qui m'a marqué dans le sens où il envoie vraiment une frappe magnifique et c'est au moment où j'arrive dans le stade, genre c'est vraiment la première action que je vois, c'est il prend prise de balle hors de surface et il enchaîne. Donc ça c'est plus sur le côté affect parce que j'étais au stade, mais après c'est sûr qu'il y a plein d'autres moments qui nous a fait vivre sous ce maillot, qui nous ont fait kiffer quoi.
Clairement. Et pour toi Robin?
Comme l'a dit Paulin, moi je miserais plutôt, bon forcément on va retirer ce match face à Nantes qui était d'un niveau exceptionnel de la part d'Eli, comme l'a dit Paulin, on a vu après tourner plein de vidéos sur son match, c'était vraiment il a fait preuve d'un niveau assez exceptionnel sur cette rencontre. Et puis après moi je miserais surtout pas forcément sur des moments mais sur de la régularité, comme l'a dit Paul, sur la saison de la montée, c'est vraiment lui qui est un peu la tête d'affiche de ce SCO qui finit deuxième cette année-là et qui remonte donc en Ligue 1 après une seule année passée en Ligue 2. Et puis après en troisième moment, je peux dire vraiment où il a été au sommet de son art, c'est cette demi-saison où vraiment il a été étincelant. Il y a pas, à part Nantes, il y a pas un match plus qu'un autre où je retire quelque chose, mais c'est vraiment une régularité à un gros niveau où vraiment à chaque match, je me suis dit, waouh, quand même Abdelli, c'est fort. Et donc voilà, juste en tout cas le remercier pour ses années passées au SCO évidemment parce qu'il a fait le plus grand bien au club d'Angers, donc voilà, un grand merci au monsieur Imad.
Ouais. Voilà, de mon côté moi j'étais plus parti pas sur forcément un moment mais sur le joueur en tant que tel qui nous a marqué. J'ai pas forcément de moment en tête, de but, de d'image d'Abdelli, mais j'ai le monsieur le patron du milieu de terrain, monsieur le capitaine la saison dernière, qui l'aurait sûrement pas perdu le capitaine cette saison s'il y avait eu les rumeurs de transfert, tout ce qui s'était dit cet été. Mais c'est ça, c'était le pilier de cette équipe qui avait un peu pris le flambeau de Pierre Capel qui était un peu sur le déclin. Et ouais, moi c'est ça que je retiens évidemment. Je pense qu'on se joint tous à toi Robin pour remercier Imad Abdelli et lui souhaiter un bon courage du côté de Marseille. Beaucoup de réussite, malheureusement pas en Ligue des Champions, mais c'est un autre débat.
Mais même pour Abdelli, quand parce que moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça, parce que j'ai un bon ami à moi qui est préparateur physique des jeunes du SCO et quand il s'entraînait avec la réserve, en fait il l'a vu aux entraînements. Et quand on dit que Abdelli il a une facilité qui est supérieure avec le ballon que certains joueurs, et que on a l'impression que quand il a la balle, en fait ça y est, genre on est rassuré, on est serein parce qu'il va la garder la balle, et que en fait peu importe ce qu'il fera, ce sera un bon choix. Et ben c'est aussi ce qu'il me disait, en fait il trouvait ça impressionnant dans le sens où quand il est du coup venu s'entraîner avec les joueurs de la réserve qui sont forcément un peu moins talentueux que lui, et ben en fait on voit le gap de niveau qui était assez incroyable, genre sur les prises de décision beaucoup plus rapides, sa façon d'analyser le jeu et cette faculté, cette facilité à on lui donne la balle et ça y est, on est tranquille quoi. Il fera ce qu'il faut, même si on est dans notre surface, on est en défense, et bah si on le trouve, on sait que lui, il a toujours été serein, balle au pied. Ouais. Et c'est vrai que en tout cas nous, vu du stade, dès qu'il touchait un ballon, on se disait OK, là il va pas la perdre, c'est clair. Quoi. Donc ouais, on lui souhaite le meilleur du côté de Marseille.
Tout à fait. Moi, j'aimerais finir pour parler du SCO. Une petite interrogation, quand même, malgré tous ces points positifs qu'on a cités, c'est le fait que le SCO ne recrute qu'en prêt. Là, l'arrivée de Banco Van Den Boomen et de Koalipu, qui arrivent donc en prêt tous les deux jusqu'à la fin de la saison. Comment le SCO va faire la saison prochaine pour retrouver des joueurs de ce niveau-là? Est-ce que on va essayer de chercher ces joueurs-là s'ils font une bonne saison, de faire sauter leur clause peut-être? Je sais pas, j'ai pas regardé quand est-ce que vont leurs contrats. Mais est-ce que de votre côté ça vous inquiète de voir le SCO accumuler les prêts? Pareil pour Hervé Kofi qui est en prêt aussi de la part de Lens. Quelle est la solution pour vous?
Déjà, on peut quand même se poser une question, c'est si ils achètent pas cet été, c'est qu'il y a un problème, parce que quand tu vends Le Pol, quand tu vends Shérif, tu vends Abdelli, bon c'est 3 millions, voilà, on a des clauses de revente sur certains joueurs, on va continuer de toucher du coup les sous de d'Aït Nouri aussi. Ouais. À un moment donné, si t'es pas capable de mettre ne serait-ce que 3-4 millions sur un joueur, c'est que forcément c'est qu'il y a des trop gros problèmes financiers au SCO qui sont peut-être dus aussi à ce que Chaban a fait avec le club. Enfin, je pense qu'il y a tout cet environnement là déjà qui met à mal peut-être la faculté du SCO à pouvoir acheter des joueurs. Mais à un moment donné, où je pense que au-delà de ça, là on récupère quand même des belles sommes avec la vente de Le Pol, Shérif, on avoisine quand même les 40 millions d'euros. à un moment donné, ce budget-là, je veux dire, il va quand même servir pour acheter des joueurs. Enfin, j'espère que cet été, là, les prêts, c'est peut-être parce que justement, vu qu'on est en cours de saison, la mi-saison, peut-être qu'ils n'ont pas osé mettre cet argent directement et peut-être qu'il y a encore besoin de refaire un point financier sur le club. Mais j'espère que cet été, en fonction de ce qu'aura fait le SCO, la place à laquelle on va terminer, on va pouvoir enfin acheter des joueurs et renforcer notre effectif.
Tout à fait, ben on verra ça. Donc cet été, on peut donc s'attendre à beaucoup de mouvements du côté angevin, à beaucoup d'arrivées et peu de départs. J'aimerais aussi souligner enfin la qualité quand même du SCO à former des attaquants, avec Esteban Le Pol qui part en début de saison du côté d'Anne pour 15 millions d'euros, et Sidi Kishaïf en une demi-saison qui met son premier but cette saison, qui part pour 25 millions à l'hiver. C'est quand même la preuve que le SCO est un club formateur. On va rester sur le foot, je vais vous parler de Ligue 1, on va faire rapidement les résultats avec en premier lieu Lens qui s'est imposé 1-0 face au Havre. Paris et le Paris FC pardon et Marseille se sont neutralisés 2-2 à Jambouin. Lorient a pris le meilleur sur Nantes 2-1. Monaco a largement dominé Rennes 4-0. Lyon a battu Lille 1-0. On l'a dit, Angers a battu Metz 1-0. Nice et Brest se sont eux aussi neutralisés 2-2. Toulouse et Auxerre se quittent sur le plus petit des scores 0-0. Et enfin, pour la dernière journée, pour la dernière rencontre, c'est le Paris SG qui s'est défait de Strasbourg 2-1 dans les dernières minutes. Voilà pour la Ligue 1. On va faire un rapide tour du côté de la Coupe de France et voir un peu les affiches qu'on a ce soir et dans la semaine.
Puisque on va évoquer, avant d'évoquer la Coupe d'Europe et la magnifique soirée qu'on a passée, on va évoquer la Coupe de France. Puisque une compétition désormais où le suspense bat son plein, notamment après l'élimination du PSG au tour précédent. Ce sera donc soit un premier sacre pour l'OM depuis 1989, un club hors Ligue 1 qui remporte ce trophée pour la première fois depuis 17 ans, ou un premier titre pour le Paris FC, seul club de l'élite encore en lice à ne jamais avoir remporté cette compétition. Avant de savoir qui va remporter cette Coupe de France, place ce soir au début des huitièmes de finale, avec dans quelques minutes le début du match Reims-Le Mans en ouverture, donc qui débute à 20h30, suivi à 21h10 du gros choc de ces huitièmes de finale entre Marseille et Rennes, on en a parlé tout à l'heure en préambule. Demain à 20h30, Toulouse, vainqueur du SCO au tour précédent, affrontera Amiens. Nice recevra Montpellier, Lyon accueillera Laval, et on en a parlé, le Paris FC donc se déplacera à Lorient, et à 21h l'ancien leader de Ligue 1 Lens se déplacera à Troyes. Enfin, en clôture de ces huitièmes de finale, nous attend un beau choc également jeudi soir à 21h avec un affrontement entre clubs européens puisque Strasbourg accueillera Monaco. Voilà messieurs le programme de Coupe de France, j'en avais parlé avec Paul en off, on peut avoir peut-être en voyant ce tirage quelques regrets du côté du SCO, hein, parce que si qualifications il y avait, ça affrontait Amiens ouais, qui est très en difficulté en Ligue 2, donc potentialité de grosses chances d'être en quart de finale, voilà, mais ça va être comme je l'ai dit alléchant parce que maintenant qu'il n'y a plus le PSG, un nouveau vainqueur cette année.
Mais tout à fait, moi j'aimerais bien vous poser la question, maintenant que le PSG est éliminé, d'habitude c'est une question qu'on pose pas trop parce qu'on voit souvent le PSG vainqueur, mais pour vous, qui va remporter cette Coupe de France 2026?
En vrai je pense que ça va être l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance avec les arrivées d'Hendrick, des autres recrues, j'ai oublié leur nom, désolé, qui sont arrivés il y a quelques jours. Du coup, ça fait qu'une équipe qui monte en puissance, qui joue très bien. On l'a bien vu, ils ont fini quand même premier de la phase de Ligue Europa, ce qui n'est pas rien, parce qu'il y a quand même des équipes comme Aston Villa, comme le Fenerbahçe, quand même, qui sont des très bonnes équipes. Donc, je pense que Lyon monte en puissance et on va voir au fur et à mesure du temps, mais je pense qu'ils vont sûrement monter sur le podium de Ligue 1 et je les vois bien prendre la Coupe de France cette année.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Est-ce qu'on a un avis différent autour de la table où tout le monde voit Lyon soulever ce titre?
J'aurais dit Lyon parce que de toute façon maintenant j'irais plus dans le sens de Marseille. Par contre, moi c'est vrai que alors leur performance contre le PSG du coup ce week-end va pas trop dans mon sens, mais j'aime beaucoup l'effectif moi de Strasbourg. En fait, il y a le talent. Après, c'est vrai que c'est des jeunes joueurs, donc il faut aussi un peu d'expérience là-dedans. Après, c'est un peu apporté aussi par Ben Chilwell, mais Strasbourg, pourquoi pas? Ça peut être un peu mon petit outsider qui peut faire son petit parcours à domicile, à la Méno, sur certains matchs un peu poussés par le public. Et puis, en tout cas, ils ont les joueurs, ils nous ont montré un bon niveau de jeu en première partie de saison. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Pourquoi pas?
Et ben voilà, on verra ça en tout cas dans la suite Bah, des résultats tout simplement, et on a encore deux clubs des Pays de la Loire quand même encore en lice avec Le Mans et Laval. Dommage que le SCO et Nantes n'y soient plus, mais bon, c'est comme ça. On va enchaîner avec la pause musicale avant d'aller sur le football européen, et on va écouter un homme qui a été Grammy Awardé ce week-end. Ce sera Bad Bunny avec son titre Nueva York.
Si te quieres divertir,
como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow, sí, con reggaetón y dembow. Como va Bonnie, va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow. Me siento como el lápiz en top del dough. Cuando yo nací fue que nació el flow de low a low. Ping pong, flow peso, big pong, con silenciador le robamos las gotas. J Bon, ey, yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los Yankees los me he avanzado a correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba. Lo tienes que mover, ba, 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 ba.
Et voilà, c'était Bad Bunny sur les antennes de Radio G, sur le 101.5 FM ou bien depuis le site www.radio-g.fr. On est parti pour cette deuxième partie d'émission et on va commencer sans plus tarder avec donc cette page européenne et c'est ce multiplex de 18 matchs qu'on a vécu mercredi dernier.
Oui, on a vraiment vécu une soirée d'anthologie hein, mercredi dernier entre surprise, exploit et catastrophe sur la planète foot. C'est la deuxième fois qu'on a le droit à ce format de 18 matchs en multiplex où chaque but compte et fait bouger les choses. On l'a d'ailleurs bien vu et on va en parler. Au départ, nos clubs français sont en bonne position puisque le PSG, adversaire de Newcastle, est sixième et virtuellement qualifié pour les huitièmes de finale. Une qualification non pas pour les huitièmes de finale mais pour les 16e, équivalent donc à un barrage. Cependant, pour Marseille et Monaco, placés au 19e et 21e rang avant le coup d'envoi, qui étaient eux opposés au club Bruges et à la Juventus. 21h, donc coup d'envoi de cette magnifique soirée pour les fans de foot. Et ce multiplex a extrêmement bien démarré, puisqu'après seulement 10 minutes de jeu, on avait le droit à des scénarios de fou, avec notamment l'ouverture du score surprise de Copenhague sur la pelouse du Barça. Marseille déjà extrêmement dos au mur, puisque les Marseillais étaient déjà menés 2-0 après 10 minutes face à Bruges. Et Dembélé, qui avait notamment raté un penalty pour le PSG, rattrapé par Vitinha, qui a inscrit 4 minutes plus tard son 6e but de la saison toute compétition confondue avec le PSG, et son 5e quatrième en Ligue des Champions après notamment son magnifique triplé face à Tottenham. Après une avalanche de buts dans cette première partie de multiplex, les Magpies reviennent à hauteur des Parisiens juste avant la pause par l'intermédiaire de Joe Willock, alors que les Marseillais souffrent toujours autant face aux Belges avec un score qui reste le même qu'après les 10 premières minutes à la pause. Un score cependant toujours figé à 0-0 alors que les Monégasques, bien dans leur match face à la Juventus, vivent de leur côté après 45 minutes une soirée toujours sans but. Ce multiplex nous réservait donc un deuxième acte avec toujours plus de suspense. Et le premier acte, on l'a dit, vraiment rempli de surprises, puisque outre nos clubs français, d'autres grands clubs étaient en grande difficulté. C'est le cas notamment des clubs espagnols, puisque les Barcelonais étaient toujours menés 1-0 à la pause face aux Danois. Les Madrilènes, eux, aussi menés après les 45 premières minutes face à Benfica. Et l'Atlético, de son côté, tenu en échec face au Bodoglin, qui à ce moment-là du match peut encore croire à une qualification pour les barrages. Après la reprise, Liverpool, déjà devant de 2 buts à la pause face à Karabag, déroule avec 3 buts en 10 minutes. Le FC Barcelone se reprend en égalisant dès le retour des vestiaires et le Bayern ouvre enfin le score par l'intermédiaire de Jamal Musiala avant l'heure de jeu face au PSV Eindhoven. Mais à l'entame des 10 dernières minutes, la tension est extrêmement palpable alors que le Barça est passé devant et mène désormais 3-1 et que l'Inter vient d'ouvrir le score face à Dortmund. Le PSG de son côté n'y arrive pas face à Newcastle. Les Parisiens sont toujours tenus en échec par les Anglais et se retrouvent alors 10e et hors des places qualificatives pour les 8e de finale. Une place qu'ils ne vont d'ailleurs pas quitter puisque à l'issue de ce match, les Parisiens vont rester à cette 10e place et donc hors du top 8. Échec pour les Parisiens donc. Mais qu'en est-il du reste? Eh bien, c'est aussi la catastrophe pour l'OM qui est désormais mené 3-0 face à Bruges et est en grand danger puisque les Marseillais sont 24e et dernier qualifié. Un but et tout pourrait donc changer. Un but de Paphos qui mène 4-1, de Benfica devant face au Real Madrid 3-2, du PSV mené face au Bayern ou de l'Athletic Bilbao face au Sporting éliminerait donc l'OM. Dans cette fin de match sous tension, l'AS Monaco de son côté, dans le seul match sans but de la soirée, se qualifie tranquillement pour les barrages avec la 21e place. Heureusement pour les Marseillais, tout se passe bien dans cette fin de match. Le PSV n'arrive pas à accrocher le point du nul face au Bayern. Paphos n'inscrit pas un 5e but et l'Athletic Bilbao est finalement défait en fin de match face au Sporting. Cependant, la fin, on la connaît malheureusement tous. Du côté du Benfica, le match s'éternise. José Mourinho, sur son banc, ne tient plus en place et décide, après un dernier coup franc accordé aux benfiquistes, de faire monter le gardien. Et dans un scénario qui arrive une fois tous les 1000 matchs, un scénario qui avait seulement 0,0005% de chance d'arriver, soit une chance sur 2 millions, le gardien donc monté aux avant-postes, Anatoly Troubine, marque dans les toutes dernières secondes du match à la 98e minute et élimine l'Olympique de Marseille de la Ligue des Champions. Un scénario qui nous a tous scotchés devant notre écran et qui a anéanti donc les chances de qualification des Marseillais. On va également évoquer rapidement du côté de la Ligue Europa, puisqu'il y avait également un gros multiplex ce jeudi. Et Nice, déjà éliminé, s'est malheureusement incliné face à Ludogorets et termine 33e de cette phase de Ligue. Cependant, bon résultat synonyme de qualification pour les autres clubs français qui sont Lyon et Lille. Les Lyonnais se sont imposés face au PAOK Salonique et sont directement qualifiés en 8e de finale, alors que les Lillois victorieux face à Fribourg grâce à un pénalty d'Olivier Giroud en fin de match terminent eux 18e. Les tirages au sort ont lieu en fin de semaine et pour nos clubs français encore engagés en Ligue des Champions, ce sera un duel franco-français puisque Parisiens et Monégasques vont s'affronter pour ces barrages. Match aller le 17 février au Stade Louis II et match retour à Paris au Parc le 25 février. Pour Lille, ce sera un club serbe au prochain tour puisque les Lillois affronteront l'Étoile Rouge de Belgrade. Match aller à domicile pour les Dogs le 19 février et déplacement en Serbie le 26 février. Donc je pense qu'on va plus se concentrer sur la Ligue des Champions, mais quelle soirée on a vécu, messieurs, mercredi.
Ah bah, complètement historique, hein, ce but de Troubine dans la dernière minute, ni plus ni moins, qui n'a réussi pas au Real Madrid. Ils se retrouveront en plus Benfica et le Real dans les barrages, donc c'est une belle histoire. Et j'aimerais bien avoir ton avis, Paul.
Bah, c'est pas une soirée que j'ai envie de garder dans ma tête, je vais te dire. C'est une soirée à oublier parce que à la fois tu te dis que tu perds 3-0, t'as plus ton destin entre les mains et ça peut encore le faire et c'est même un miracle parce que quand même quand tu prends 3-0 à Bruges, c'est quand même qu'il y a un problème. Mais du coup, bah Troubine vient anéantir toute chance et ce qui est complètement logique vu le jeu proposé par l'OM sur les deux derniers matchs. Je suis désolé mais quand t'as une différence de plus 3 buts, que t'as 9 points et qu'il te reste 2 matchs qui sont quand même importants et qui même si c'est des équipes qui sont pas faciles à jouer, tu dois jamais en prendre 6. Tu dois jamais prendre 6 buts sur 2 matchs contre Liverpool et contre Bruges. Mais bon, Malheureusement, on a pris 3 buts contre Bruges. Je sais même pas comment c'est possible de prendre 3 buts là-bas. Genre, c'était une soirée complètement cauchemardesque pour les joueurs. Il y avait rien qui allait. Bon, ça c'est arrivé comme ça. Malheureusement, c'est éliminé. Et puis j'ai envie de te dire que qu'est-ce qu'on aurait fait contre le Real de Madrid en 16e de finale? Je pense pas grand-chose vu le jeu proposé en ce moment. Donc est-ce que c'est pas plus mal? Je ne sais pas, mais on saura jamais.
Le premier match au Real de Marseille était pas si mal. Hein.
Convaincant, mais c'est plus le même jeu. Le jeu qui était proposé au début de saison, enfin à ce moment-là, c'était un peu la fougue qu'il y avait. Et depuis le match contre le Sporting en octobre, c'est par vague. Il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Et quand c'est des mauvais moments, c'est n'importe quoi.
De toute façon, on avait parlé de Bruges qu'il fallait s'en méfier. On avait dit qu'ils avaient fait un gros match à domicile face au Barça et que ça proposait du jeu, ça allait beaucoup de l'avant. Et puis voilà, au-delà du match catastrophique des Marseillais, quand même que j'ai trouvé. Très 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 mauvais. Bruges a aussi fait un grand match, donc faut leur attribuer le mérite. Mais bon, j'ai vu beaucoup de supporters marseillais après le match s'indigner en disant ah il y avait pas faute. Mais bon, le match messieurs les Marseillais, il fallait le gagner avant. C'est pas possible de prendre 3-0 à Bruges. Tu peux pas prendre 3-0 à Bruges et te dire que c'est de la faute d'un gardien à la 98e qui marque un but. Le match s'est joué avant, donc c'est sûr que c'est terrible pour les Marseillais, mais. Mais c'est à l'image de leur fin de campagne, j'ai envie de dire.
Ouais, ça est quand même aussi. Je veux de glisser un mot pour Lille, qui a fait une belle prestation à Fribourg, qui avait son destin entre ses mains et qui a su gérer ça pour se qualifier en barrage. Paulin, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cette soirée?
Bon, pas grand-chose hein. En soi. Je trouvais, enfin, c'est tellement des moments qui arrivent. Une fois, et tu forcément que si t'es supporter marseillais, tu te dis que le ciel il te tombe dessus littéralement parce que quand le coup de sifflet final est donné, Marseille est qualifié. Pourtant, tu perds 3-0, tu fais une performance qui est pas à la hauteur d'un club qui va jouer les barrages de Champions League et même le geste à la fin quand ils font tourner le ballon parce que on leur dit qu'ils sont qualifiés mais en même temps c'est pas une attitude parce que tu perds 3-0 donc tu te dis va marquer un but et va t'assurer du coup ce petit matelas de avec un but en plus mais non ça vient comme un symbole et en même temps Benfica ils ont fait un match super contre le Real donc enfin c'est vrai que prendre un but d'un gardien, ça arrive pas tous les 4 matins, mais non, ouais, c'est. Je pensais que les Marseillais allaient montrer plus d'envie et plus de niaque sur le terrain du club bruges. Ça a pas été le cas. Bon, voilà, ils se relèveront de ce genre d'échec. Ils reviendront sûrement plus forts parce qu'ils ont les joueurs et ils ont le coach pour le faire. Mais on verra à l'avenir.
Ouais, en tout cas, c'est sûr que c'est une soirée qui restera gravée dans nos mémoires. Enfin. Avec plus ou moins un bon souvenir. On suivra donc ce PSG Monaco en barrage et on va enchaîner nous du côté de l'Australie et du tennis qui nous a montré de très belles choses.
Et oui, il l'a fait. Le Murcien a répondu présent pour s'adjuger son premier Open d'Australie et ainsi devenir le plus jeune joueur de l'histoire à remporter les 4 tournois majeurs à 22 ans. Le voilà qui s'envole sur une autre planète, sa planète tant il a tout d'un extraterrestre qui va plus vite que tout le monde, qui tape plus fort que tout le monde et qui fait preuve d'une intelligence de jeu tout aussi irréelle avec un mental où le mot acier ne semble pas assez fort pour montrer à quel point il est imperturbable. Je me répète souvent, mais ce Murcien s'apparente plus à un Martien. Chaque match, chaque set, chaque jeu, chaque point, il ne cesse de nous impressionner. Et quand on le pensait battu après qu'il se soit mis à cramper au bout de 2 sets face à Zverev en demi-finale, il a encore une fois réussi à renverser le match et à entrer petit à petit dans la tête de Sacha Zverev jusqu'à même en prendre le contrôle quand il a débreaké au moment où Zverev servait pour le match à 5-4 avant de totalement détruire les espoirs de titre pour un Zverev impeccable, car être impeccable ne suffit plus quand on affronte Alcaraz. De 5-4, il a remporté l'ultime set 7-5 en produisant un niveau tennistique qu'on pourrait personnifié d'une pluie de météorites s'abattant sur la partie de terrain de Zverev avant de porter le coup de grâce à l'aide d'un passing phénoménal sur le revers de Zverev, s'il vous plaît, qui nous a évidemment rappelé sa balle de titre lors d'un des plus grands matchs de l'histoire face à Sinner au dernier Roland. Il semble que monter au filet après un coup droit appuyé sur la droite d'Alcaraz pour jouer une volée et écarter une première balle de match ne soit pas une bonne idée, en espérant que ses futurs adversaires apprennent la leçon. Cette demi-finale hispano-allemande aura été un vrai spectacle, un show rempli de rebondissements qui nous aura encore permis d'assister à une nouvelle démonstration de force mentale et de ressources inépuisables d'Alcaraz. Zverev a pourtant produit un excellent tennis, mais là aussi, l'excellence ne suffit plus quand Carlitos affiche ce niveau tennistique. Mais s'il y avait eu que cette demi-finale qui fut délicieuse, j'aurais continué ma chronique en parlant directement de la finale. Or, l'autre demi-finale fut un chef-d'œuvre de bout en bout. En effet, un vieux briscard a décidé de faire un bond dans le temps pour revenir 10 ans en arrière et montrer un niveau de tennis que seul le meilleur joueur de tous les temps, un Espagnol et un Italien, semblent en mesure de montrer de nos jours. Là où une grande majorité pensait que Yannick Sinner n'allait laisser aucune chance à Nole, ces mêmes personnes semblaient oublier que le Serbe avait déjà soulevé le trophée australien à 10 reprises, qu'il était encore le maître des lieux et qu'il était bel et bien décidé à rester le chasser et non devenir le chasseur. Le match était grandiose et alors que Djoko était dos au mur mené 2-7-1, sa force naturelle, ses jambes d'il y a 10 ans, sa défense immense, ses retours gagnants et ses coups droits en bout de course sont venus lui prêter main forte pour venir à bout d'un géant, paradoxalement réduit au rang d'élève face au maître qui n'a rien pu faire à part mettre genou à terre face à sa majesté. Et voilà que la légende de ce sport s'envolait vers la finale. Le GOAT allait pouvoir se battre pour un 25e grand chelem face peut-être à sa réelle kryptonite, un extraterrestre, un super-héros dont le super pouvoir semble être sa précocité. Messieurs, si on parle un peu de ces demi-finales qu'on peut qualifier d'extraordinaires, hein, parce que c'est vrai que l'enchaînement des matchs était assez incroyable, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bah, c'est quand même assez fou quand même comment Alcaraz, même crampé, arrive à revenir dans le match contre Zverev. C'est quand même phénoménal. C'est ce qu'on avait dit avec Robin, on en a parlé ensemble, c'est que même quand Alcaraz est à bout physiquement, il arrive quand même à aller jusqu'au tie-break pour affronter Zverev. C'est quand même fou. C'est que même quand Zverev a normalement l'avantage physique, il arrive quand même à avoir des difficultés face à Alcaraz. C'est quand même assez affolant. Et comme tu l'as dit, c'est fou comment il est impressionnant mentalement. C'est que même quand il est dos au mur, même quand tu te dis, enfin, entre parenthèses, il va perdre. Et au final, il revient d'entre les morts et il gagne encore. Il va encore en finale de ce grand chelem où il a jamais été encore pour l'instant. Et c'est phénoménal. Et derrière, bah, Djoko, enfin, tu te dis d'où il ressort toute cette énergie. Il a été bien aidé, je pense, par ces deux matchs contre Mensik et contre Musetti où il les a, Mensik n'a pas joué et Musetti, il a pas fini. Donc, il était peut-être plus frais qu'un Sinner qui avait joué en 4-7 contre Shelton ou 3-7, je sais plus. 3-7. Et du coup, il était peut-être un peu plus frais. Du coup, ça l'a peut-être aidé, mais même phénoménal Djoko aussi. Donc non, c'était deux superbes demi-finales.
Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, tu le dis, c'était un petit peu, on sentait que les étoiles s'alignaient pour que Djoko aille chercher cette finale. Mais même sans jouer contre Mensik et avec l'abandon de Musetti, la performance qui sort contre Sinner reste tout de même assez invraisemblable, en tout cas à son niveau. Robin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
On a vécu vraiment des demi-finales d'anthologie, hein. Que ça soit celle d'Alcaraz. Après, moi, je trouve qu'Alcaraz a été juste stratosphérique, mais Zverev peut avoir beaucoup de regrets parce qu'il a vraiment loupé le coche. Comme l'a dit Paul, on avait parlé. Et quand t'arrives pas à finir le set plus tôt qu'un tie-break face à Alcaraz, un Alcaraz crampé qui joue les points en marchant, qu'il met, je vais pas dire aucune puissance, parce que bien évidemment, s'il met ses coups là, moi, il y a aucune chance que je les rattrape. Mais voilà, qui joue, à peut-être 20-10% de son niveau normal. Et t'arrives seulement à le battre deux fois dans les tie-breaks. Pour moi, il a loupé le coche. Il doit enfoncer le clou quand il voit qu'il est mal physiquement. Et il doit aller gagner ce match, tout simplement, et jamais se faire débreaker. Mais voilà, c'est la force de Carlitos, comme tu l'as dit, c'est que même quand il l'a perdu, il est encore là, il vient, il te débreak, et puis il vient gagner le match et se qualifier en finale. Donc voilà. Et puis après, on a eu cet affrontement où on pensait que tout était fait pour une nouvelle finale en grand chelem entre les deux intouchables. Et puis on n'a pas compris ce qui s'est passé. Sinner, qui pour moi n'a pas été à son prime, on peut le dire sur ce match. Mais c'est dû aussi au fait de la performance XXL de Djoko que je pensais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau-là. Franchement, j'ai été vraiment époustouflé. Surtout perdre 2-7-1 où tu te dis, bon là physiquement, ça va être dur pour Djoko, etc. Et puis non, il va chercher les deux autres sets. Non, c'est juste invraisemblable. Donc j'étais très content pour lui. Après, voilà, la finale choquée du premier set. Franchement, 6-2 pour Djoko. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le vieux briscard? Mais finalement, non, la logique, on va dire, a été respectée. Mais franchement, plus choqué par et époustouflé par ces demi-finales que cette finale. Mais on a vu un superbe Open d'Australie qui, moi, je trouvais manquait un petit peu de piquant jusqu'au quart, demi-finale. Et puis là, on a trouvé toute la magie du tennis dans cette fin de tournoi. Donc c'était exceptionnel.
Non mais tu l'as dit justement que cet Open d'Australie s'est un petit peu réveillé au niveau des demi. Après voilà, on avait justement cette finale entre Alcaraz et Djoko. Alors moi, vous pouvez pas imaginer ma tristesse quand j'ai dû me lever pour travailler dimanche matin alors qu'à 9h30 il y avait le duel au sommet qui allait se produire de l'autre côté du globe à Melbourne devant un public de la Rod Laver Arena qui ne pouvait rêver meilleure finale. Pourquoi? Parce que des Sinner Alcaraz, on en verra encore plein d'autres, alors qu'un Djoko Alcaraz en finale, c'était peut-être un des derniers. Alors à 9h40, quand le match a démarré, Djoko est apparu comme s'il n'avait pas quitté le court depuis vendredi, hein, tu l'as dit. Le duel qu'il a livré face à Sinner, on avait l'impression qu'il était resté dedans parce qu'il a proposé un niveau de jeu exceptionnel qui a surpris l'Espagnol et qui l'a laissé sans voix ou du moins sans poids dans ses frappes. Alcaraz s'est fait balader durant tout le premier set et en 34 minutes, en lui affligeant 6-2, Novak avait montré à Alcaraz qu'il était bel et bien au rendez-vous, que si l'Espagnol ne se réveillait pas, alors le Serbe allait encore plus graver son nom dans l'histoire et s'inscrire réellement comme le meilleur joueur de tous les temps, sans aucun débat objectif entendable, étant donné qu'il aura réussi à battre Alcaraz à son prime alors qu'il a un niveau incroyable. Mais évidemment, vous doutez bien qu'il n'est pas dans la nature de l'Espagnol de se résigner à laisser son adversaire gagner. Le Murcien n'a pas attendu plus longtemps pour rentrer dans son match et a infligé la même sanction que Djoko lui avait donnée dans le premier set, en remportant lui aussi le deuxième set 6-2. Derrière, les choses se sont compliquées pour Djoko et on a senti que ses jambes de jeunesse le quittaient et que son physique de bientôt quarantenaire le rattrapait. Et face à la puissance d'un Alcaraz rempli de punch et de fougue, le sacre semblait s'envoler pour le Serbe et se rapprocher pour l'Espagnol. Dans le quatrième set, dos au mur, Djoko a tout tenté en essayant de s'appuyer sur une première balle plus aussi tranchante que face à Sinner et a lutté jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se fasse breaker juste avant qu'Alcaraz serve pour le titre. Même en cherchant le soutien du public australien, en essayant de s'alimenter de leur soutien, même en multipliant des défenses exceptionnelles ou des attaques toujours plus dangereuses les unes que les autres, il n'a rien eu à faire. Alcaraz avait atteint un niveau que seuls les plus grands ont déjà atteint et Djoko en fait encore partie, seulement il affronte désormais plus fort que lui. Faustin, je me tourne vers toi, est-ce que t'en as pensé un petit peu de cette finale, du niveau quand même de Djoko sur la fin du tournoi et puis forcément d'un septième titre du Grand Chelem pour Alcaraz?
Bah déjà j'étais étonné moi de voir Djoko en finale, de le voir gagner un match en 5-7 contre Sinner. Je me disais, plus le match va durer, plus ce sera compliqué pour Djoko. Au final, c'était le contraire, c'est lui qui a fait la remontada. Mais c'est quelque chose qui s'est vu malheureusement sur la finale. Il était usé physiquement, c'était au mollet, il me semble, qu'il avait des problèmes pendant cette finale. Et Alcaraz était tout simplement meilleur, tu l'as dit, à son prime. Hein. Enfin, on sait même pas s'il est à son prime, il a que 22 ans. Et oui. Il peut encore être meilleur. Mais ouais, c'était le seul tournoi du Grand Chelem qui lui manquait. Il le décroche à seulement 22 ans, donc c'est comme s'il lui avait jamais manqué finalement ce niveau-là dans une carrière. Il est tout simplement impressionnant. Je sais pas combien d'années, si on voit Djoko qui peut jouer comme ça jusqu'à 38 ans. On a peut-être encore plus de, bah c'est sûr, même on aura plus de 10 ans de Alcaraz à un niveau comme celui-là. Va savoir qui ira le détrôner. Sinner est évidemment le premier en lice, mais est-ce qu'on aura d'autres joueurs qui auront le temps, hein, d'ici qu'il ait 38 ans et ils auront le temps d'arriver, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est tout simplement impressionnant de le voir à ce niveau-là, c'est magnifique.
Et puis ce qui est fou, c'est qu'il s'était séparé de Juan Carlos Ferrero, qui le chouchoutait depuis ses débuts. Et c'est vrai que ça posait des questions, comment il allait se réinventer sans son coach. Et au final, il n'y a pas de questions, en fait, ça a rien changé. Il est tout aussi incroyable. Et à Melbourne, il pouvait y avoir ce petit choc mental où il avait jamais gagné ici. Donc peut-être qu'il allait justement un peu plus être friable, mais non, pas du tout. Il a une force mentale qui est quand même assez hallucinante pour un gars de 22 ans. Le gars, il a un an plus que moi, mais enfin, ce qu'il fait, laisse tomber, quoi. Enfin, je sais pas, c'est assez dingue. Et puis, comme tu le dis, hein, la longévité de Djoko, si Alcaraz arrive à cette longévité-là, bah, bien joué à lui, il aura 5 ans de Grand Chelem. On verra bien. Chez les femmes, rapidement, du coup, c'est Rybakina qui a eu le dernier mot face à une Sabalenka en finale qui a toujours un problème avec ses nerfs, qui arrive pas à rester lucide quand il le faut. Elle menait un 7-0 puis un 7 partout. C'est Rybakina qui a pris le premier, mais derrière elle est revenue. Et d'ailleurs, elle est revenue, elle a mis 5 jeux de suite, c'est-à-dire qu'elle gagnait 3-0 dans le dernier set. Là, on se dit, elle gagne 3-0, on sent que Rybakina, il y a quelque chose qui a diminué son niveau de jeu. Et derrière, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, le coach touche deux mots à Rybakina, elle se relève et derrière, elle enchaîne 4 jeux de suite pour breaker Sabalenka. Elle fait le travail derrière sur son service et voilà qu'elle remporte son deuxième titre du Grand Chelem, une Sabalenka voilà qui n'y arrive plus sur certaines finales où on sent que, je sais pas, il lui manque quelque chose encore, il lui manque la force mentale d'un Alcaraz pour pouvoir justement aller chercher ce genre de titre, parce que aller en finale, ça y est, maintenant elle l'a acquis, elle le fait sur quasiment tous les gros tournois, mais derrière, pour aller s'imposer à Roland contre Coco Gauff, on l'a vu aussi que c'était compliqué, là encore une fois contre Rybakina, donc ouais, ça semble... Voilà, il semble que aussi dans le tableau féminin, à chaque fois, on a le droit de voir des nouvelles surprises et des joueuses comme Rybakina qu'on avait déjà vues sur le devant de la scène qui reviennent pour chercher des titres. On peut, je peux finir par parler un peu d'un avenir un peu radieux pour le tennis français, parce que le tennis français ne se porte pas au mieux, mais des lueurs d'espoir apparaissent chez les plus jeunes qui ne cessent de faire parler d'eux et d'impressionner. Commençons d'abord par l'épopée de notre jeune française Ksenia Efremova, qui a réussi à s'adjuger l'Open d'Australie chez les filles, seulement 2-7 perdus sur 6 matchs. La jeune athlète naturalisée s'est montrée très forte de caractère et a déjà su montrer un tennis bourré de maturité. Son titre est une très bonne nouvelle pour le tennis féminin français qui peine à revenir sur le devant de la scène tennistique mondiale après le départ à la retraite de Caro Garcia. Et une autre alerte à la pépite est à signaler avec les belles performances du prometteur Moïse Kouamé qui a signé ses premières victoires ATP sur le tournoi de qualification de Montpellier. Le voilà déjà dans le tableau principal, prêt à jouer les troubles faites et peut-être même y faire un résultat parce qu'il est sur une belle série de victoires, même s'il a joué des tournois ITF, c'est plutôt positif. Donc à voir, la marche semble peut-être encore un peu trop haute quand on voit les noms dans ce tournoi-là. Demain, il affronte Kovacevic. Pourquoi pas aller chercher une victoire devant un public montpelliérain qui sera très chaud, je pense. Il a que 16 ans et l'avenir lui tend les bras. Et enfin, pour terminer, on avait Arthur Fils qui jouait en ce moment. Alors, j'ai plus le résultat en tête. Il jouait contre Valentin Royer. Mais c'est vrai que ça a fait plaisir aussi de voir Arthur Fils. Alors, peut-être qu'il... Je sais que j'ai vu que dans le premier set, c'était assez serré. Donc
il y a un set partout là, il y a un set partout et il mène deux jeux à un dans le troisième, il a breaké, voilà, il y a avantage pour lui.
Ouais, donc voilà, donc ça montre qu'il revient. Valentin Royer, c'est quand même un joueur qui est assez confirmé et qui est assez épatant d'ailleurs. Il a fait des bons résultats la saison dernière. Donc si Arthur Fils peut retrouver le niveau qu'il a su nous montrer et quand il a pu gagner notamment contre Zverev ou batailler contre Alcaraz, c'est clairement un joueur qui peut prétendre, en tout cas pour moi, au top 10 mondial. Quand on voit que c'est un top 10 qui peut fluctuer, je pense qu'il a la capacité d'aller jouer justement contre ces gros et peut-être de nous faire vibrer dans les futurs tournois.
Et ben c'est ce qu'on suivra, cet avenir du tennis français, notamment Arthur Fils, qui n'a pas fini de nous surprendre. Un avenir un peu moins radieux, c'est du côté du handball où ça s'est mal passé, Paul.
Et oui, mercredi dernier, les Bleus disputaient leur dernier match de phase de poule des championnats d'Europe. Ce dernier match les opposait à l'Allemagne dans un duel au sommet pour la qualification. Les Français étaient obligés de gagner pour espérer se qualifier. Dans un match où ils n'ont jamais réussi à faire course en tête, les Bleus se sont inclinés 38 à 34. Une défaite au goût amer, synonyme d'élimination avant même le dernier carré. L'équipe de France abandonne donc son titre continental au soir d'une troisième défaite en terre danoise. Des Danois qui, de leur côté, se sont imposés dimanche contre les bourreaux des Bleus, l'Allemagne, sur le score de 34 à 27 en finale. Après l'or mondial et olympique, les Vikings de Mathias Gidzel ont conquis l'or européen, rejoignant l'équipe de France au Panthéon des Nations ayant cumulé les trois titres en 2010 et 2015. Comme tu l'as dit, c'est très très compliqué en ce moment pour l'équipe de France. On en avait parlé la semaine dernière, déjà on avait des doutes sur ce match contre l'Allemagne et cette possible qualification. Donc nos doutes se sont confirmés et c'était très compliqué.
Ouais, même pas un esprit revanchard par rapport au quart de finale des JO pour les Français qui se font malheureusement sortir dès les tours préliminaires, dès les phases de poule. C'est terrible, en espérant qu'ils arrivent à se relever pour les prochaines compétitions internationales, parce que le handball français est en perte en ce moment. On va finir rapidement avec de la NBA, parce qu'on connaît tous les joueurs sélectionnés pour le All-Star Game. J'essaie de vous les faire rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. À l'Ouest, en titulaire, on a Stephen Curry, Nikola Jokic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, et maintenant les remplaçants qui ont été annoncés il y a pas longtemps. On a Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Devin Booker, Kevin Durant, Denis Avdija et LeBron James. À l'Est maintenant, chez les titulaires, on a Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Kate Cunningham, Tyrese Maxey et Jaylen Brown. Et du côté des remplaçants, on a Donovan Mitchell, Jalen Johnson, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes et Jalen Duren. Qu'est-ce que tu penses de cette sélection, Paulin ? Est-ce que tu vois des grands absents ?
Ouais, j'en vois un, je vois Kawhi Leonard qui nous a fait, à partir du moment où les Clippers se sont remis en route, qui nous a fait des performances assez lunaires en enchaînant des matchs qui oscillaient entre 30 et 50 points. Ouais. Donc le voir absent alors qu'il est à 27 points de moyenne, je comprends pas trop, surtout quand je vois que Chet Holmgren est dans la liste. Moi, Chet Holmgren, je suis absolument pas d'accord. Je vois, enfin, Déjà, le Thunder, ça va beaucoup moins bien en ce moment. Et puis, même moi, je suis pas du tout convaincu de ce qu'il apporte sur le terrain. Enfin, en tout cas, il est capable de marquer des points. Mais s'il y a pas Shai, il y a pas le Thunder. Là, il y a que lui qui les porte. En tout cas, en ce moment, c'est vrai qu'ils sont bien moins flamboyants que l'année dernière. Et après, il y a Alperen Şengün aussi qui risque de remplacer Antetokounmpo parce que Antetokounmpo apparemment pourrait quitter du coup le navire. Donc voilà. Moi, je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi, à part Kawhi, Alperen Şengün, derrière, je pense qu'il y a des places méritées. On pourrait parler d'un Brandon Ingram, du coup, que tu suis avec les Raptors, qui est pas nommé, qui aurait eu ça à sa place, mais il y a Scottie Barnes, donc t'as un Raptors.
C'est tout à fait encore, j'ai envie de dire. Mais ouais, moi, je vois James Harden aussi, qui aurait pu être présent, surtout qu'en plus, l'All-Star Game a lieu à l'Omnidome, des Clippers à Los Angeles. Donc, voir aucun Clippers, c'est un peu dommage, je pense, pour les fans qui pourront faire le déplacement. Et je suis assez surpris aussi de la présence de Pascal Siakam, avec les Pacers avant-dernier à l'Est, qui présentent pas des performances incroyables. Hein. Je l'aime beaucoup, Pascal Siakam. Hein. Il m'a fait rêver en 2019 notamment. Mais malheureusement, je l'aurais pas sélectionné ici pour le All-Star Game. J'aurais en effet pris... à l'Est, je sais pas trop qui j'aurais pris. Mais j'aurais plutôt vu c'est vrai, un Şengün. Je te rejoins, un Şengün et Kawhi, qui auraient clairement pu être sélectionnés à la place de Chet Holmgren. Je te rejoins pas mal là-dessus. On s'en parlera de la NBA la semaine prochaine, je pense, avec la trade deadline qui arrive. On a déjà eu quelques moves là. On s'en parlait pendant la pause musicale avec Jaren Jackson qui a bougé du côté de Utah. On viendra donc là-dessus la semaine prochaine. Plein de choses à vous dire. Évidemment, on va vous laisser sur l'émission Imaginaire qui a lieu juste après nous sur le 101.5 FM de Radio G. Et on vous souhaite une bonne soirée.